Seigneur, nous te remercions pour cette occasion de nous réunir vraiment en famille, quoique nous sommes séparés d'une grande distance, néanmoins devant le trône de ta grâce, là où est assis le Seigneur Jésus, le souverain sacrificateur, nous te remercions que c'est ton esprit qui nous dirige ensemble et qui nous donne un cœur de t'adorer à travers ton Fils seul et son sang versé pour les pécheurs tels que nous sommes. Et nous sommes reconnaissants que c'est notre état devant toi. Nous sommes toujours pécheurs, mais dans ta justice, Christ ayant satisfait tout ce que ta justice exige, nous avons cette assurance que nous, quand nous approchons, tu nous vois comme ton Fils, dans sa justice, et non pas la nôtre, parce que nous savons que nous n'avons pas de justice. Alors, je prie que tu daignes bénir ces moments autour de ta parole, que ce soit un encouragement pour chacun de nous, et que toute la gloire te revienne dans le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te prie. Amen.
Amen.
Alors, je voudrais reprendre l'étude dans la première épître de Paul à Timothée, et le chapitre 1. Nous avons, à travers les deux dernières semaines, étudié ensemble les quatre premiers versets. Mais aujourd'hui, je voudrais continuer à partir du verset 5 jusqu'au verset 11 et voir ensemble ce que Paul parle ici du commandement dans le verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié. Alors ici, Paul est en train de faire une distinction entre les légalistes de son jour, et il y en a pas mal aujourd'hui qui parcourent le monde, prétendant être prédicateurs de Dieu, mais par le message, ils sont en réalité des docteurs, soi-disant docteurs de la loi, tel qu'il indique dans le verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi. C'est leur point fort. Mais ils ne sont pas prédicateurs de l'évangile. Alors, il y a une différence. Et nous avons la même chose aujourd'hui. Il y en a qui prétendent être prédicateurs de Christ, mais ils ne prêchent pas Christ.
Allô?
Oui, allô?
Oui, je vous entends bien, mon frère.
Ok, bienvenue.
Oui.
Ok.
Je vous entends.
C'est très bien. Oui.
Je vous entends.
C'est bien.
C'est bien.
Ok.
Ok, d'accord.
Vous entendez.
Oui.
Vous entendez.
Oui. Très bien.
Oui, je vous entends. Très bien.
Oui. Bon, pour le dégagement, on a eu un petit problème avec le site, nous sommes en retard.
Non, c'est exactement au moment que Dieu l'a voulu. Donc, il n'y a pas de retard avec Dieu. C'est bien. Alors, bienvenue. Nous sommes en train je viens de faire la lecture d'1 Timothée, chapitre 1. Et aujourd'hui, le passage que nous sommes en train d'étudier, c'est du verset 5 au verset 11. Et j'étais en train d'expliquer qu'il y a ici une différence entre prédicateurs. Et nous avons la même situation aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous devons faire attention, parce que il y a des prétendants, des gens qui professent être prédicateurs de Christ ou de l'Évangile, mais en réalité qui ne sont que des, comme Paul décrit ici, des soi-disant docteurs de la loi. Il ne les appelle même pas qui sont docteurs de la loi dans le verset 7, mais il dit ils veulent être docteurs de la loi. Ils aiment ces titres, mais nous savons que si quelqu'un est vraiment un docteur de la loi dans le sens biblique, il prêchera Christ, parce que la loi n'a pas été donnée pour autre raison que de diriger le pécheur à Christ. Tu sais, il y a trois raisons que Dieu a donné sa loi. La première des choses, c'est de révéler sa sainteté. Alors, si quelqu'un a vraiment vu la loi telle qu'elle est, sa bouche sera fermée devant Dieu. Il ne va pas se justifier dans sa propre justice devant Dieu, parce qu'il reconnaîtra qu'il n'y a rien dans la loi que lui, personnellement, il pourrait jamais obéir à cela. Parce que ça révèle la sainteté de Dieu. Les hommes aujourd'hui qui courent par-ci, par-là pour prêcher la loi, imposer la loi aux hommes, ils ne se sont jamais vus eux-mêmes dans le miroir de la loi. Ils sont aveugles. Autrement, ils ne seraient pas en train de prêcher la loi, mais prêcher Christ, qui est le seul qui a jamais satisfait à cette loi, à la justice que Dieu lui-même exige. Et donc, c'est pourquoi Paul leur dit ici, ils disent eux ici, ils veulent être docteurs de la loi. Parce que la loi a été donnée pour révéler la sainteté de Dieu. Deuxièmement, la loi a été donnée pour révéler le péché de l'homme. C'est le problème même au temps de Christ, parce qu'il était face à ces soi-disant docteurs de la loi qui se vantaient d'être les docteurs de la loi. Mais en réalité, la loi n'est pas seulement la lettre de la loi qu'il faut obéir, mais c'est l'esprit de la loi. C'est pourquoi il disait, surtout si vous regardez dans Matthieu chapitre 5, lorsque ils accusaient le Seigneur Jésus d'avoir mis la loi de côté, il commence à leur montrer le vrai sens de la loi. Et encore, c'était afin que leur bouche soit fermée. En Matthieu chapitre 5 et le verset 17, vous voyez sa réponse. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. C'était leur accusation. Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. On entend les gens disent souvent que quand ils vont se tenir devant Dieu un jour au jugement, bon, ils espèrent que leurs œuvres seront bonnes devant lui. Mais la loi, d'abord, il n'y a aucun qui n'est juste devant Dieu face à la loi. Mais ce n'est pas seulement par nos œuvres, mais par nos pensées. Qui peut dire que ses pensées sont droites? Et c'est ce que la loi juge. Mais l'homme prétend que c'est seulement ce qu'il fait que Dieu va juger. Non, c'est la loi vise même les pensées du cœur. Et c'est pourquoi, par exemple, dans le verset 27 de Matthieu 5, il disait, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est ce que dit la loi dans Exode 20 et le verset 14. Mais qu'est-ce que Christ dit d'eux? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Qui peut dire qu'il n'est pas adultère? Alors, c'est ce que la loi juge. La lumière de la loi vise non seulement les actes de l'homme, mais les pensées. Et même le cœur est méchant. Et plein de péchés, qui peut le connaître? Alors l'homme qui prétend qu'il est juste devant Dieu face à la loi, il n'a pas encore vu, il est encore aveugle, il n'a pas encore vu son vrai état devant Dieu. Alors, on peut se demander, donc pourquoi la loi? C'est la même question que Paul pose ici dans 1 Timothée chapitre 1, quand il dit dans le verset 8, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. » Le problème n'est pas avec la loi. Elle est bonne parce qu'elle révèle vraiment le caractère de Dieu dans toute sa sainteté, sa justice, sa gloire. Mais il dit, la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Alors, ceux qui prennent la loi et prêchent l'obéissance à la loi comme un moyen de salut, ils ne sont pas en train d'utiliser la loi d'un usage légitime. Ce n'est pas le but de la loi pour donner le salut aux hommes. Au contraire, c'est pour condamner les hommes qui se jugent eux-mêmes justes. Tu sais, c'est comme si quelqu'un arrêtait et l'amenait devant le juge. Qu'est-ce que cette personne va faire? Il va essayer de se justifier devant le juge. C'est ce que tous les hommes font. Ils le font devant les hommes, mais ils le font aussi devant Dieu lui-même. Et c'est pourquoi Paul dit dans le verset 9, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Qui est le juste? C'est celui que Dieu lui-même a justifié. Il n'y a qu'un seul juste, c'est Christ. Et tous ceux pour qui Christ accomplit son œuvre du salut à leur égard, à leur place, sont justes devant Dieu. Donc, nous ne sommes plus sous la loi de cette manière, comme si nous devons rendre compte à la loi. Ça, c'est la beauté de l'évangile. Si Christ est révélé en nous, nous savons que cette loi n'a plus de pouvoir sur nous. Nous n'avons plus à craindre la sainteté de Dieu, parce que c'est Christ qui a déjà accompli tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons justifiés devant lui. Mais c'est écrit dans le verset 9, « Mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux, les profanes, tous ces mots qui sont utilisés là, c'est ce que la loi dénonce. Mais nous devons dire que c'est ce que nous sommes nous-mêmes dans notre nature. Quand je lis ça, je dois dire « Je suis coupable dans chaque mot ». Il y en a qui prétendent que, oui, je ne suis pas aussi pire que l'autre. Bon, je vois le mot impie, pécheur. Bon, il s'agit pas de moi. Les gens qui raisonnent comme ça n'ont pas encore vu Dieu ou sa loi de la manière que c'est décrit dans la Bible. Parce que si réellement l'Esprit agissait en eux, leur bouche serait fermée. En fait, ça c'est ce que Paul disait dans Romains chapitre 3. Si vous regardez là avec moi, Romains chapitre 3, il vient d'écrire, et tout cela c'est inspiré de l'Esprit, et il adresse cette parole surtout à des Juifs par rapport aux païens. Tu sais, le mot païen, dans la Bible, s'agissait des Grecs. Il y a les Juifs, regardaient le monde comme divisé en deux. Il y avait les Juifs, et ils se considéraient comme la véritable race d'hommes, et puis il y avait le reste du monde. C'est pourquoi quand Christ est venu, il ne prêchait pas un message limité aux Juifs. Il était, c'est comme la Bible dit, il est venu comme le sauveur du monde, mais pas dans le sens de vouloir sauver chaque pécheur dans le monde. Ça, ce n'était pas son but. Mais pour des pécheurs de chaque tribu, chaque langue, il a un peuple choisi depuis l'éternité partout dans le monde. Quand je constate présentement, je suis américain, bon, je suis en train de, il y a le frère Amédée qui est ivoirien, il y a Koulibaly qui est d'origine malien, mais qui vit en Côte d'Ivoire, et puis nous avons le frère Aurélien qui est au Bénin, et puis il y en a qui sont de la France ailleurs. Qu'est-ce qui nous unit actuellement? C'est l'évangile. C'est le message de Christ. Alors, le frère Médée, on entend un bruit là.
Oui, je t'entends pas bien.
Ok.
C'est le sous-traitant.
D'accord. Alors, ici, dans Romains chapitre 3, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Là, il est en train de parler en tant que juif. Chaque race, c'est pourquoi il y a le racisme. Chaque race se suppose meilleure que l'autre. Et ça, c'est ça, c'est l'effet du péché, en effet, dans le cœur. Parce que il n'y a pas un pécheur qui est plus excellent que l'autre. Nous ne sommes que des vermisseaux devant Dieu. Et il dit ça, nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, et on peut dire américains comme africains, ou on peut dire chinois comme européens, tous sont sous l'empire du péché. Comment est-ce que cela s'est passé? C'est quand Adam a désobéi que toute sa race en lui a été plongée dans le péché et le jugement. Selon qu'il est écrit, ça ce n'est pas une philosophie, ça c'est la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça c'est ce que la loi dit. Et c'est pourquoi Paul, en parlant de la loi dans 1 Timothée 1, il dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, s'il y avait un juste. Donc, la loi ne serait pas pour celui-là, mais il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup dans la religion qui disent, oh, mais moi, je cherche Dieu. J'aime Dieu. Ils aiment Dieu de leur imagination. Ils aiment le Dieu qu'ils imaginent comme Dieu. Mais quand ils sont, et vous le savez comme moi, en prêchant Dieu tel qu'il est dans la Bible, il y a des gens qui se fâchent. Ils disent, mais ça, c'est quel genre de Dieu, ça? Parce qu'ils trouvent le Dieu de la Bible comme un monstre, qui un dictateur, il est souverain, il sauve qui il veut, il juge, il condamne qui il veut, et des hommes se fâchent. Nul ne cherche Dieu, le véritable Dieu. Ils ont des idées de Dieu. C'est pourquoi, tu sais, le mot idolâtrie, dans le mot même, il y a le mot idée. C'est l'idée que les gens se forment de Dieu en eux-mêmes, mais c'est une idée déjà pécheresse, dépourvue, et il, comme un homme, il prend un bois, il taille une image de Dieu. Pour être idolâtre, on n'a même pas besoin d'un objet. C'est ce qui est dans le cœur. Les hommes cherchent leur Dieu, ils aiment leur Dieu, mais non pas le Dieu de la Bible. Tous sont égarés, c'est écrit dans le verset 11. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Combien de fois se répéter? Pas même un seul. Le gossier est un sépulcre ouvert. Tu sais, si on disait réellement tout ce qui est dans le cœur, les hommes ne pouvaient pas supporter. Combien de fois nous avons des pensées contre quelqu'un, on voudrait bien dire quelque chose, mais on s'arrête là pour ne pas enflammer la situation. Pourtant, de temps en temps, il y a des paroles qui sortent et les gens sont étonnés. Ils disent, ah bon, tu te dis chrétien et tu parles comme ça? C'est parce que le gossier est un sépulcre ouvert. Imaginez un sépulcre ouvert où il y a des ossements, la pourriture de la mort. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous leurs lèvres, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Imaginez. Et on peut prendre cette parole et prêcher contre d'autres, mais est-ce que ce n'est pas en train de décrire notre propre nature à nous? C'est ce que la loi condamne. Non seulement les gestes, mais les paroles, les pensées. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et puis, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et leur malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors, c'est comme je disais, c'est ce que la loi révèle. Ça, c'est la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Et devant ça, personne n'a raison d'être. Si Dieu condamnait tous les hommes en tant que pécheurs, il serait juste. Et je dois dire moi-même, ce serait mon cas. S'il me condamne, il est juste dans cette condamnation. Alors, où est l'espoir? Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que notre bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ouais, ça, que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Est-ce que c'est possible de muter ton appareil là, Amédée? Enfin, que tu puisses écouter sans, parce qu'on entend toujours la femme. C'est toujours la femme qui donne la. Ok. Non, mais il y a sur. Ouais. Mais il y a sur ton appareil un micro. Si tu appuies dessus, ça mute le bruit. Donc tu peux toujours nous écouter, mais on n'entend pas le bruit.
Ah, là, il ne sait pas ça.
Ah, ok. Ça va être une découverte pour plus tard.
D'accord. Okay.
Mais le point là, c'est comme nous lisons dans 1 Timothée, que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles. Parce que c'est le but de révéler la nature de Dieu dans sa sainteté, mais aussi la nature de l'homme dans son péché. Mais la troisième chose, et c'est ça que je voudrais que vous voyez, verset 20, « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, cela ne veut pas dire que Dieu met de côté sa loi, mais sans exiger une obéissance de la loi de la part du pécheur, parce que l'homme ne peut pas obéir par la satisfaction de Dieu. Il n'y a qu'un seul homme qui a obéi parfaitement cette loi, c'est Christ. C'est pourquoi il est venu. Même Paul écrivait ça aux Galates dans son épître, parce qu'ils ont, même après avoir entendu prêcher l'évangile, ils se sont retournés à la loi, s'imaginant que même si ce n'est pas pour le salut, ils pouvaient quand même se sauvegarder en suivant la loi. Et Paul disait aux Galates, dans Galates 2:21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, par une obéissance quelconque, Christ est donc mort en vain. » C'est une manière de dire qu'il est venu mourir en vain parce que l'homme aurait pu obéir sans la mort de Christ. Ça, c'est le blasphème. Et ici, dans Romains chapitre 3, c'est la même chose que Paul dit par cette parole inspirée. Il dit, maintenant, sans la loi, sans l'obéissance de la part de l'homme à la loi, est manifestée la justice de Dieu. Quand c'est écrit est manifestée la justice de Dieu, la justice de Dieu est dans la personne de Christ. Il est venu dans la chair, manifesté. Ça, c'est la manifestation de la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Ouais. Donc, ce que je prêche, la parole que nous sommes en train de regarder maintenant, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est le témoignage de la loi et les prophètes. Ça, c'est un terme qui s'applique à l'Ancien Testament, aux Écritures de l'Ancien Testament. C'est drôle parce qu'il y a certains qui voient la Bible divisée en deux et disent, oh, bon, ça c'est l'Ancien Testament et maintenant nous avons le Nouveau. Non. L'Évangile, le message de la Bible, c'est le message de la satisfaction de Dieu par Christ. Et c'est ça la troisième raison que Dieu a donné sa loi, afin que les hommes sachent sa sainteté. Numéro un, numéro deux, qu'ils voient qu'ils sont pécheurs devant lui, mais trois, c'est afin de les amener à Christ. Ça, c'est le but de la loi. Et c'est pourquoi quand je prêche dans l'Ancien Testament, je ne suis pas en train de prêcher la moralité ou bien exiger la loi, il faut faire ceci, faire cela, parce que ça nous condamne déjà. Mais je retourne dans l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, dans un seul but. De orienter les auditeurs, orienter les pécheurs, moi aussi étant pécheur, que l'Esprit m'amène à Christ, qui est le seul qui ait jamais obéi à cette loi. C'était nécessaire. Dieu n'a pas mis sa loi de côté pour sauver les pécheurs. C'est pourquoi Christ, en venant dans le monde, il devait non seulement obéir aux préceptes de la loi, mais il devait aussi se soumettre à la peine de la loi, qui est la mort, parce que c'est ce que la loi exige, c'est la mort. Alors, c'est de ça que Paul parle ici dans le verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ce n'est pas en train de dire que c'est la foi qui nous justifie, mais la foi en Jésus-Christ, quand Dieu donne cette foi regarde uniquement à l'œuvre accomplie de Christ. Si nous voulons savoir si quelqu'un est vraiment racheté de Dieu, et il est vraiment enfant de Dieu, régénéré par l'Esprit, écoute ses paroles. De quoi il parle? S'il ne parle uniquement de Christ et de son œuvre et ce que Christ a accompli, donc on peut espérer que vraiment c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il parle comme un enfant de Dieu. Mais s'il est en train de parler de ses œuvres et de ce qu'il a fait, ou même de sa foi, combien de gens, ils élèvent la foi au-dessus même Christ. Ils ont foi en leur foi. Et tel n'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Non, la foi, c'est comme l'esprit, ne parle pas de lui-même. Mais il prend les choses concernant Christ et il révèle ces choses dans nos cœurs. Alors, la véritable foi est toujours orientée sur Christ, fondée sur Christ. Ça, c'est la vraie foi de Dieu, foi biblique. Et c'est écrit, il n'y a point de distinction, car tous ont péché. Tu vois la manière que c'est écrit, ont péché. C'est comme si tout le monde a péché en même temps. Ce n'est pas en train de parler de ce petit péché-ci, comme les hommes parlent, ou bien ce grand péché-là. Non, tous ont péché. Quand est-ce que tous ont péché? C'est quand Adam a péché. Parce que c'est lui le représentant. Il y en a qui vivent comme s'il y a déjà, cette affaire est toujours en cours, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est déjà fini. Quand Adam a péché, il a chuté dans le jugement toute sa race. Tu dis, mais je n'étais pas né encore. C'est pas nécessaire. Tu étais en lui. Et si tu es sorti du sein de ta mère, tu es en Adam. Tu es un fils d'Adam. Tous ceux qui vivent sont fils d'Adam. Et ils sont nés dans ce monde pécheur. On ne devient pas pécheur. Nous sommes nés pécheurs. C'est pourquoi nous péchons. Alors c'est dans ce sens qu'il dit, car tous ont péché. Une fois pour toutes, en Adam. Et sont alors privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut vivre d'une manière à glorifier Dieu de la manière que Dieu exige, sauf Christ. Tu vois, c'est pourquoi c'était nécessaire qu'il vienne. Il devait accomplir tout ce qui était nécessaire comme le substitut. Et c'est écrit dans le verset 24, alors, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voici le mot justifié. C'est pourquoi Paul disait ici dans 1 Timothée chapitre 1 et le verset 9, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. On entend vraiment beaucoup de bruit, Amédée. C'est comme le vent. Coupe ton micro, ouais. Ah voilà. Coupe le micro. Pas Skype, mais seulement le micro. Ah oui. Tu ne vois pas sur le panneau, tu ne vois pas un micro?
Non, moi je vois. Je vois un plus et un moins.
Donc, oh. Ah, ok. Pas de micro.
Moi, j'ai pas de micro.
Ok. Il faut faire l'étude là-dessus ou bien pour la semaine prochaine parce que s'il y a du bruit dans la... Ouais. Non, c'est bien. C'est bien.
Bon, est-ce que vous voulez intervenir?
Ouais. Vas-y.
Vraiment, je suis très content par ce message-là. Parce que moi, personnellement, quand j'observe la loi, je me vois plus éloigné de Dieu, en réalité. Parce que la loi me met, présente ma nullité devant Dieu. Donc je vois que le problème même de ressentiment dont vous avez parlé tout de suite, alors c'est un de mes grands problèmes. Je me demande même des fois comment on peut aimer l'être, notre prochain, comme Dieu a dit. Et quand je vois ce côté, je vois réellement que je ne suis pas dans cette assiette. Et j'ai vraiment encore besoin de m'approcher plus du Christ. Alors, de telle sorte, la loi, pour moi, je vois réellement que j'ai besoin de me confesser, de me repentir et de m'approcher encore plus de Dieu, près de Dieu en Jésus-Christ. Et quand on observe même la loi, tellement on voit sa bassesse, sa faiblesse, qu'il faut qu'on s'approche. On voit la nécessité de Christ réellement dans la vie des hommes. Alors, c'est pour cela le premier message sur la sainteté, alors, m'a beaucoup plu. Et j'ai même décidé, parce que la fin de ce mois, je dois donner des cours à l'église, aux hommes, de commencer par ces cours-là. Parce que nous voyons des fois, beaucoup veulent se passer de Christ, hein, et œuvrer pour eux-mêmes. Alors, nous voyons que là, déjà, il y a un coup. Donc, en leur montrant réellement que Christ est tout et tout. Christ est tout pour nous et il est tout. C'est ce qui doit être vraiment. Alors, c'est ce qui est vraiment à dire à propos de la loi. L'étude sur la loi, vraiment, moi, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de comprendre tellement que je suis éloigné de Dieu, tellement que j'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie. Que
le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci.
Amen.
Oui. C'est la vérité. Il n'y a pas, c'est pourquoi nous sommes en train de voir ça. La Bible, met la lumière sur toute pensée de l'homme. Pas, surtout la nôtre. Tu sais que c'est notre plus grand péché, c'est de penser que il y a quelque justice en nous-mêmes qui peut nous recommander à Dieu. Et bon, à part la parole, comme la lumière et les yeux que l'Esprit donne, on allait continuer dans cette voie-là, dans notre imagination perdue. Mais lorsque l'Esprit ouvre les yeux et nous avons cette parole et nous lisons ce que dit la Bible, nous pouvons voir clairement par la grâce de Dieu que, comme tu dis, Christ est tout. Et c'est vraiment le message de la grâce. Ce n'est pas cette doctrine-ci ou cette doctrine-là, mais tout est centré sur Christ. Il est la véritable doctrine de Dieu. Il est l'évangile. Christ est l'évangile. C'est sa personne, c'est son œuvre. Point. Je ne sais pas si Aurélien, tu as quelque chose à ajouter aussi.
Oui, je suis en train de constater que beaucoup, comme le verset vient de le dire là, ils veulent être docteurs de la loi. Le fait même de vouloir être docteur de la loi, de vouloir se proclamer, se voir dans le rôle de dicter la loi là, montre réellement que ceux-là n'ont pas compris la loi et n'ont pas compris ce que la loi dit et eux-mêmes ne comprendront jamais ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'en réalité, l'apôtre Paul dit par exemple dans Romains 7, 14 que nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mmh. Mais moi, je suis charnel.
Voilà.
Donc, la loi, en réalité, ne parle pas d'un point de Dieu. La loi révèle l'entièreté de Dieu. Mmh. La loi révèle la souveraineté, la perfection, la justice de Dieu. Et par rapport à cela, l'homme ne peut pas supporter parce que cette loi, telle qu'elle se révèle, est spirituelle. Mais l'homme en face de cette loi est charnel.
Mm-hmm.
Et comme vous venez de dire, l'homme charnel devant la loi qui se révèle spirituelle ne peut que fermer la bouche parce qu'il n'y a rien qu'il peut comprendre et communiquer à travers cette loi.
Mm.
Et c'est là où les choses sont liées parce qu'en réalité, la loi est là et dans la révélation de Dieu à travers la loi. Il y a trois buts qui sont en train de s'accomplir. Premièrement, l'homme se voit dans son état charnel, séparé, coupable, indigne et condamné devant Dieu. Donc, la loi est là pour éloigner totalement l'homme de Dieu et révéler clairement Dieu tel qu'il est. Ensuite, la loi telle que Dieu la révèle amène le coupable qui se voit éloigné au seul moyen par lequel Dieu peut le rapprocher. Et c'est là où l'apôtre dit que la loi est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc celui qui voit réellement Dieu à travers la loi ne peut pas considérer un point de Dieu pour se voir pécheur par rapport à un point de l'homme. Mais il va voir l'entièreté de Dieu, le caractère spirituel de Dieu et par rapport à ça, se voit comme charnel vendu au péché, comme Paul l'a dit. À partir de ce moment, il ne peut que s'attendre à réclamer une seule chose. Un médiateur qui peut parfaitement satisfaire Dieu et parfaitement satisfaire l'homme qui est déjà coupable, indigne et condamné par le péché. Et c'est là où seule la foi est là pour que nous nous retrouvions dans cette foi pour être un avec Dieu, tel que Dieu lui-même, à travers cette foi, nous unit à lui. Et c'est Christ comme nous l'avons vu la semaine passée. Ouais, donc quand les hommes en réalité veulent voir dans la loi des choses à faire ou à ne pas faire, il est clair qu'ils n'ont pas compris la loi. Ils ne voient pas Dieu entièrement dans la loi et ne se voient pas loin de Dieu par rapport à cette loi pour se rechercher plutôt dans la foi, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, le Fils bien-aimé, en réalité, que Dieu reconnaît à travers sa personne et que la personne de Dieu reconnaît à travers lui. Donc, c'est lui en réalité le médiateur. Donc, il ne s'agit pas pour nous de nous accrocher maintenant à la loi dans les termes de l'égalité et de vouloir être celui qui va l'enseigner ou la maîtriser. Mais si réellement nous comprenons la loi, nous allons voir que la loi, telle qu'elle manifeste notre condamnation, notre indignation et notre culpabilité devant Dieu, nous allons voir que la réalité, telle que cela la manifeste, la grâce aussi, qui est la grâce de Dieu, qui est l'entièreté de Dieu en Christ, manifeste notre condamnation, notre culpabilité et notre indignation. Et c'est là où on a besoin seulement de la foi. Si quelqu'un ne comprend pas la loi, il ne comprendra jamais la foi. Et si quelqu'un ne voit pas Dieu à travers la loi, il ne se condamnera jamais.
Ouais.
Mais quand on voit Dieu, on ne peut que se condamner,
ouais,
se voir coupable, indigne. Et on ne peut que se rechercher à travers une autre personne qui a approuvé de Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est là où Dieu révèle à travers sa loi, sa personne, révèle à travers cette même loi, Christ qui est venu l'accomplir, et de cette même manière, nous, le voyant, nous nous recherchons, nous renonçons donc à nous-mêmes pour être entièrement avec Dieu en Jésus-Christ.
Ah.
Donc le prédicateur, comme vous venez de dire, en réalité, qui prêche la loi véritablement, ne peut que prêcher Christ,
ouais,
pour que le coupable qui passe à Dieu se voit,
ouais,
condamné,
ouais,
aille à Christ pour se voir réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ.
C'est
pourquoi en réalité Dieu exige la prédication de la foi, qui même remplace la prédication légaliste intellectuelle de la loi.
C'est
parce que la foi révèle non seulement la grâce de Dieu, mais Dieu lui-même et toute la loi de Dieu, c'est-à-dire l'entièreté de Dieu, et nous recommande seulement à Christ.
Ouais.
Et c'est ce qui fait la différence réellement entre le prédicateur et ceux qui veulent discourir Dieu, se montrer grand, enseignant de la loi, de la parole de Dieu, de tout ce qui concerne la loi.
C'est
donc,
ça.
En résumé, nous devons comprendre à travers la loi. Si quelqu'un comprend la loi, il ne peut que dire ce que l'apôtre Paul a dit. Nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, et comme tout homme, nous sommes charnels. Et le charnel ne peut jamais satisfaire le spirituel. Comme le spirituel ne peut compatir avec le charnel. C'est ça. Seulement par la foi, vous voyez que nous regardons l'invisible et nous nous voyons réellement spirituel avec Dieu pour adorer Dieu en vérité selon Dieu et en esprit. Voilà ce que je veux réellement souligner. Il me semble que c'est le que l'apôtre est en train de dire en opposition, en comparaison à ceux qui ne comprennent rien, de lui se prévaloir, non seulement docteur de la loi en termes d'enseignant de la loi qu'il ignore, mais aussi celui qui veut enseigner Dieu maintenant, la parole de Dieu aux autres. Mais en réalité, si nous comprenons Dieu, nous ne voudrions pas enseigner Dieu, car Dieu ne peut que se révéler pour qu'on le comprenne. Maintenant, si on prend un point de Dieu qu'on veut enseigner, là, on est en train de passer à côté et on ne prêche pas réellement Dieu. Car Dieu ne peut que se révéler à travers la loi, tout comme il se révèle à travers la foi. Et le pécheur ne peut que voir sa condamnation, son caractère charnel, séparé, éloigné de Dieu définitivement, pour pouvoir s'identifier à Dieu seulement par la foi. C'est très important.
C'est bien.
Je ne sais pas si vous voyez un peu.
Non. Très clair. Très clair. Parce que les gens nous accusent souvent de ne pas prêcher la loi. Mais comme tu dis, prêcher la loi, c'est de prêcher Christ qui a observé cette loi parfaitement. C'est prêcher la justification par Christ et son œuvre accomplie. Dieu n'a pas mis la loi de côté, mais si quelqu'un Et sauvé, c'est par cette obéissance parfaite à la loi que l'homme, dans son péché, ne pourrait jamais, même commencer de faire le premier pas d'obéissance. Les gens aiment parler de leur obéissance personnelle devant Dieu, mais il n'y a pas tout cela. Ce n'est que des comment c'est écrit en Ésaïe chapitre 64 verset 6, des vêtements souillés devant Dieu. Mm-hmm. Amédée, tu allais ajouter quelque chose?
Non, c'est pas moi, tout ce que vous avez dit, c'est bien. Ah,
c'est
bien. En voiture.
C'est ça. Okay.
C'est pas le même point de vue.
C'est bien. Non, il y en a quand ils lisent la Bible, par exemple, dans 1 Timothée 1, 5, pour revenir à notre texte, quand ils voient le mot commandement, quelle est la première pensée qui entre dans leur cœur? Ah, voilà, ça c'est l'obéissance à la loi. Mais ils tirent les mots hors de leur contexte. Quand Paul écrit le but du commandement, il faut voir dans le contexte, quel commandement? Il a dit déjà dans le verset 3, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Là, vous pouvez tracer une ligne de là jusqu'au verset 5, le but de ce commandement-là. C'est de ça qu'il parle. Et quand c'est écrit afin de recommander, ce n'est pas, ça, le mot dans l'original, dans le grec, c'est comme un ordre qui est venu d'un commandant à ses soldats. Le but de cet ordre est de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et là, on voit encore doctrine au pluriel. Parce qu'il n'y a qu'une seule doctrine, c'est la doctrine de Christ. Et le but de ce commandement, c'est une charité. Les gens disent, mais quand tu prêches comme ça, cela veut dire que tu n'aimes pas l'homme. Non, c'est parce que j'aime la charité que je suis en train de te dire la vérité. Quelqu'un qui aime un autre, il ne cache pas la vérité, il dit la vérité, il le dit dans l'amour. Alors, bien sûr, quand nous prêchons, nous ne devons pas prêcher fâchés. Il y en a quand je les entends, ils sont en train de prêcher comme ils sont fâchés. Même un prédicateur m'a dit ça, il dit quand, pendant la semaine, il visite les membres de son assemblée, et ils voient ce qu'ils sont en train de faire, et puis le dimanche, quand ils arrivent, bon, ils se lèvent pour prêcher contre leur péché, contre leur manière de vivre. C'est quelqu'un qui prêche fâché. Ça, ce n'est pas prêcher Christ, parce que quelqu'un qui prêche comme ça, comme tu l'as bien dit, Aurélien, il ne s'est jamais vu lui-même pécheur. Cette doctrine de la grâce nous humilie. C'est pourquoi, parfois, souvent, je dirais, quand je suis en train de prêcher, même à notre assemblée, je suis ému. Je suis rempli d'émotions, constatant que je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Et que toute la gloire revient à Christ. Et c'est dans l'amour que nous annonçons cette vérité, qu'il n'y a qu'une seule justice accomplie au calvaire. Et c'est par cette justice seule, comme nous venons de lire dans Romains chapitre 3, et le verset 24, cette justice seule de Christ, que nous sommes justifiés devant lui, par le sang versé de Christ, par son rachat. Alors ça c'est le sens quand ça parle ici. Oui, vas-y.
Ici, allô?
Oui. Vas-y.
Voilà, je voudrais vraiment préciser avec vous, vous avez bien fait de souligner ça, au verset 5 là. Dit le but du commandement. Effectivement, les gens passent à côté de l'étymologie du sens même du commandement et pour ne pas voir son but. Parce qu'en réalité, comme vous venez de dire, commandement, là, c'est un mot qui est composé de deux autres mots. Co, vous voyez, mandat. Donc, Dieu s'est donné pour mandat de se révéler lui-même dans toute sa personne, à l'homme, pour que l'homme cherche à se voir entièrement à lui. Et ça, il nous a ordonné, comme vous l'avez dit, il nous a ordonné non pas d'enseigner un point de Dieu, mais de révéler ou de proclamer tout Dieu dans son ensemble. Donc nous avons reçu, Dieu s'est donné d'abord mandat et a partagé ce mandat avec nous de le prêcher lui-même et de l'apprendre à Christ. Ouais, donc le but réellement du commandatement, c'est ce qu'on devrait comprendre. Nous partageons le même mandat que Dieu. Donc nous n'avons pas droit de proclamer ou bien de vouloir communiquer autre chose que Dieu lui-même veut communiquer. Et la seule chose que Dieu veut communiquer, il s'est donné le mandat de partager ce qu'il est entièrement. C'est-à-dire son amour, sa personne, c'est ça qu'il veut partager. Et c'est seulement par Christ. Et maintenant, si réellement Dieu a partagé cela, c'est-à-dire ce mandat que Dieu s'est donné, de se donner à nous là, s'il l'a partagé avec nous, en réalité, nous avons une charité qui vient réellement d'un cœur pur, d'un cœur sans mélange, qui ne connaît pas autre chose que ce Dieu seul avec l'amour qu'il a rempli et qu'il a placé en Christ et que Christ a partagé avec nous en nous joignant à lui. Donc, Dieu nous donne conscience. Si la conscience ne voit pas Dieu seul pour se condamner et finalement se retrouver en Christ pour être un avec Dieu, cette conscience n'est réellement pas bonne.
Ouais.
Autrement dit, c'est une conscience morte qui n'a rien à voir avec Dieu.
Ouais.
Et d'une foi sincère.
Ouais.
C'est encore un mot là qui veut dire qui est sans et si. Ça là, je voudrais expliquer un peu par rapport aux jars que l'on vendait en son temps au marché. Et quand le jar a des traces et est troué, ne peut pas contenir l'eau, on y passe des cils, de la cils. Et quand les gens voulaient acheter la jarre, ils disent, mais est-ce que votre jarre est sans cils? Et le mot est venu de sincère.
Voilà.
C'est-à-dire, nous n'avons pas un Dieu que nous partageons avec hypocrisie en ayant quelque chose en vue que nous remplaçons par Dieu. Nous avons une foi réellement sincère, une foi sans cils.
Ouais, c'est ça.
Une foi qui n'est pas remplacée par autre chose que Dieu lui-même qui se révèle en Jésus-Christ et que nous-mêmes nous voyons à travers ce même Christ pour partager le même mandat que Dieu de proclamer Dieu, sa loi, et ainsi de proclamer, prêcher Christ et que signifie la foi. Et c'est là, c'est à cela que nous sommes accrochés. Nous avons une foi sans fille. Nous partageons le même mandat que Dieu. Ce mandat qu'il a partagé avec Christ et qu'il a partagé avec nous, ces messagers, nous n'avons pas autre chose à enseigner, autre doctrine, autre fable histoire habilement conçue pour intéresser les hommes ou bien parfaire les hommes, mais nous gardons le même mandat que Dieu lui-même, que Christ, et nous restons limités là avec la foi sincère que l'Esprit révélera Dieu et Christ révélera Dieu et le cœur, comme Dieu, Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 4, Dieu qui a fait briller la lumière dans les ténèbres là, va faire briller sa gloire dans nos cœurs sur la face de Christ. Donc c'est notre objectif quand nous prêchons. Mais effectivement, les faux docteurs, ils veulent être docteurs de la loi parce qu'ils ne comprennent pas la loi. Ils veulent imiter ce que Dieu seul s'est donné mandat pour faire et donne à tout le monde. Et finalement, il exprime ou vive un amour qui ne vient pas du cœur. Parce que Dieu ne lui a pas mis. Ils n'ont pas eu une bonne conscience envers Dieu lui-même pour se voir en Jésus-Christ.
Ouais.
Et leur foi est une foi qui est remplacée par autre chose qu'on veut faire croire que c'est là.
Ouais.
Bonne foi, comme la jarre sur laquelle on passe de la fille ou dire c'est sans fille. Alors que c'est quand on dit cela que c'est réellement de la fille qui a passé le tout. Donc nous ne prêchons pas une foi en mettant autre chose dans la foi tout en disant que c'est Dieu, c'est Christ. Et nous, en réalité, nous devons tenir ferme à cela et comprendre ce que nous prêchons réellement, ce que nous communiquons. Et ce que nous voulons que Dieu fasse dans la vie des autres, par sa grâce en Jésus-Christ.
Ah ouais. Bien dit.
Je pense que. Bon, pasteur.
Oui.
Oui, pasteur.
Oui.
Je dis que c'est vraiment
Un moment pour le bari. Oui, Amédée.
D'accord. Oui, je voulais vous laisser parce que là.
Tu dois partir. Oui, d'accord.
Voilà. Donc,
Bon, merci et
salut tous les frères.
D'accord, d'accord. Et enfin, le Seigneur a voulu quand même qu'on passe ces quelques moments ensemble avec toi. Et bonne journée, merci bien.
Bonne journée,
ok, d'accord, bonne journée à vous, merci beaucoup. Donc, nos communications, merci.
Vas-y, Koulibaly. Oui, Koulibaly.
Voilà, je disais que c'est tellement juste. C'est pour cela que j'aime beaucoup ce passage de l'apôtre Paul là. Quand il dit qu'il veut faire la volonté de Dieu, mais il voit qu'il est empêché. Et il dit par la suite, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Vraiment, ça c'est un passage vraiment qui montre que l'apôtre Paul connaissait la dimension de la loi. Et il savait qu'il ne pouvait pas faire quelque chose. Moi-même, en réalité, quand j'étais nouvellement converti, quand je faisais des études bibliques, je faisais des recherches entre l'islam et le christianisme, c'est les psaumes qui m'ont beaucoup plu d'abord. Parce que je voyais David dire dans les psaumes, mes péchés sont nombreux comme mes cheveux. Je voyais en lui quand même une certaine humilité, une certaine bassesse d'esprit, alors qu'il me plaisait. Alors, comme je ne voulais pas entendre que Jésus est Dieu, je ne lisais pas le Nouveau Testament. Et c'était les psaumes que je lisais. Voilà pourquoi, quand j'ai compris maintenant les choses, j'ai vu que David, c'est évidemment, il a eu la colère sur son dos, le châtiment sur son dos, mais il est devenu l'homme vraiment le plus humilié. Et c'est cela même qui a fait que Dieu vraiment l'a beaucoup aimé encore plus. Voilà, c'est une leçon vraiment à retenir. Si nous prêchons réellement aussi la loi, c'est aussi nécessaire parce que la loi met à nu l'homme.
Ouais.
La loi dépouille complètement l'homme. Alors c'est vraiment un très bon message. Vraiment ouais. Que le frère Odio, ce qu'il a dit, tout ça c'est bon. Vraiment que le Seigneur le bénisse aussi. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère Ken.
Amen. Oui, et c'est évident que les hommes peuvent lire la Bible et en faire sortir de n'importe quelle doctrine. Paul disait ça en écrivant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, verset 15, concernant les Juifs. Ils lisaient les Écritures comme nous lisons la loi et les prophètes. Ça faisait partie de leur culte. Mais il s'est écrit dans 2 Corinthiens 3, 14, ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Christ est la clé de la loi, des psaumes, des prophètes. Et si Dieu, par son esprit, ne donne pas des yeux pour voir Christ à travers la loi, donc les hommes vont toujours prêcher la loi comme étant ce que Dieu exige pour le salut ou bien pour garder, se sauvegarder dans le salut. Il y en a qui prêchent comme ça. Ils disent, oui, le salut est par Christ, mais il faut aussi obéir à cette loi, autrement vous serez jugé. Ça, ce n'est pas le message de la Bible. Soit que Christ a payé la dette entière, ou bien la dette n'est pas payée. Et si c'est payé, c'est vrai ce que tu dis, frère Koulibaly, que si nous prêchons la loi, c'est pour que l'homme voit en elle la sainteté de Dieu et l'homme lui-même soit complètement dénoué, mis à nu, tu vois, devant Dieu, comme pécheur. Mais tu peux, par la loi, il y en a qui prêchent la loi de cette manière. Ils veulent que les gens comprennent la sainteté de Dieu. Ils veulent que les hommes comprennent qu'ils sont pécheurs. Alors, maintenant, ils sont à nu, mais ils ne prêchent jamais Christ. Ils disent aux gens, bon, maintenant, il faut se mettre en règle avec Dieu. Mais comment? Non, on ne se met pas en règle avec Dieu. C'est Christ qui a fait ça. Et tous ceux pour qui il est mort, ils sont déjà justifiés devant lui. C'est l'Esprit qui ouvre leurs yeux et leur montre qu'il n'y a aucun espoir en eux-mêmes, mais toute l'espérance. C'est ça que nous avons vu dans Timothée. Jésus-Christ, notre espérance. Si quelqu'un me demande quelle est mon espérance pour le ciel, Jésus-Christ, mon espérance. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à offrir à Dieu. Mais le problème, c'est que les gens lisent la Bible aveuglement, comme j'ai fait pendant des années. Tu sais, Koulibaly, c'était par la grâce de Dieu qu'en 1984, lorsque il a commencé à œuvrer dans ton cœur, même quoique j'étais en Côte d'Ivoire comme missionnaire, mais j'étais encore aveugle. C'était en 84 qu'il a ouvert mes yeux aussi, pour voir que le message de Christ, de la Bible, c'est Christ, et Christ seul. Parce que j'ai prêché des doctrines jusque-là. J'ai prêché ce que je croyais être l'Évangile, mais c'était un mélange de l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme. Et Dieu m'a convaincu par son esprit, par sa parole, que non, tout cela n'était que du péché devant lui. Mais beaucoup continuent à lire la Bible de cette manière, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, la loi, un voile est jeté sur le cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je crois que c'est de ça que Paul parle ici dans 1 Timothée 1 et le verset 5 encore, quand il parle d'un cœur pur, ou bien d'une bonne conscience, ou bien d'une foi sincère. Voilà encore, quand les gens voient ces mots, ils commencent à prêcher des méthodes pour avoir un cœur pur, ou bien se purifier la conscience, ou bien avoir cette foi sincère. Combien de messages, combien de proclamations, combien de prédication est-ce que nous avons dû supporter en entendant ces gens de prédication qui sont en dehors du contexte encore, en dehors de Christ. Quand on voit dans Hébreux chapitre 9, par exemple, et le verset 14, comment est-ce que quelqu'un peut avoir un cœur pur, une bonne conscience devant Dieu et une foi sincère? La réponse est dans la Bible. Hébreux chapitre 9 et le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Pourquoi il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu? C'est parce qu'il a obéi parfaitement cette loi à la place de son peuple. Et notez bien, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Qu'est-ce qu'une œuvre morte? C'est de s'imaginer que je peux offrir quelque œuvre quelconque à Dieu et que Dieu soit agréable avec moi à cause de cette œuvre. Ça, c'est une œuvre morte. C'est la seule œuvre de Christ qui est considérée devant le Père. Et il purifie notre conscience de ces œuvres mortes. Ce n'est pas dans notre pensée maintenant de retourner à la loi. Imaginez que notre obéissance à la loi, notre obéissance personnelle, pourrait rendre notre état devant Dieu un peu plus stable qu'auparavant. Non, nous sommes pécheurs. Et c'est écrit afin que vous serviez le Dieu vivant. Comment est-ce que nous servions le Dieu vivant si ce n'est à travers Christ? Celui qui honore Christ honore le Père. Ouais. Alors, c'est pourquoi...
Pardon?
Oui, vas-y.
Voilà, j'ai dit que réellement même, cela fut pour moi un grand handicap, parce qu'il y a longtemps que moi j'avais le désir de servir Dieu. Mais il y a eu un temps réellement où je me fondais sur ma capacité spirituelle. C'est-à-dire, je disais, il faut que je sois saint, il faut que je respecte les normes, les règlements, les préceptes pour servir Dieu.
Ouais.
Et je m'appuyais sur ma propre connaissance. Réellement, c'est avec ce message, avec l'évangile que vous prêchez qui m'a beaucoup aidé.
Mmh.
Et qui m'a fortifié. Partout où je passais, on disait, mais dis donc, il faut que toi tu prêches l'évangile. J'ai dit, mais moi je ne peux pas prêcher l'évangile. Je suis tout mauvais. Je suis nul. Alors je suis plein de vices. Alors je m'appuyais vraiment sur ma propre capacité. Et cela a été réellement pour moi.
C'est sûr.
Mais en réalité, avec les parents musulmans, quand je leur prêche, ils disent que voilà, tu prêches l'amour de Dieu, tu connais l'homme, mais pourquoi tu ne prie pas? Pourquoi tu ne prie pas mauvais? Vous voyez, et je l'aurais apporté parce que, et ça pèle seulement sur les œuvres. Alors vraiment, je vous demanderai de beaucoup prier aussi.
Ouais.
Et ces messages-là, réellement, ça pénètre dans mon cœur.
Ouais.
Vraiment, que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Oui. Oui, le verset 6 dit cela. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. C'est pour dire que si quelqu'un n'est pas centré sur le Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il est révélé dans la Bible, toute la Bible, l'ancien comme le nouveau, que son discours est vain. Et combien les gens l'appellent, ils appellent ça une prédication, mais c'est la Bible l'appelle de vain discours. Et que le Seigneur nous donne vraiment ce cœur pur, purifié, ça c'est ce que l'Esprit de Dieu fait en détournant nos pensées de nous-mêmes, et d'avoir cette bonne conscience qu'en effet Christ a tout payé, que toute notre dette a été payée par son sang et sa justice, et que cela est toute notre justice devant Dieu. Autrement, nous n'avons pas de justice. Et d'une foi sincère, comme le frère l'a bien expliqué, ces vases qu'on trouve d'argile, bon, l'artisan ne veut pas refaire, donc il prend un peu de cire et il remplit, et il fait en sorte comme si c'est une bonne base, mais arrivé à la maison, quand on chauffe l'eau dedans, voilà, la cire se découvre, tu vois. La foi sincère, sans cire, c'est sans le levain de nos œuvres. La foi est centrée uniquement sur l'œuvre de Christ seul. Et c'est ça de prêcher l'évangile. Tu vois, c'est le contraste ici entre ceux qui sont légalistes, qui veulent être docteurs de la loi, mais en fait, leurs discours sont vains par rapport à ceux qui prêchent l'évangile, comme dans verset 11, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Ça c'est unique. C'est un message distinct de ce qu'on entend les hommes prêcher, qui veulent prêcher un peu de Christ, un peu la loi, un peu l'œuvre de Christ, l'œuvre des hommes. Tu vois, c'est un mélange qui n'est pas l'évangile. C'est une perversion. C'est de pervertir l'évangile. Ah, notre temps est déjà fini. Je dois pouvoir me préparer pour la deuxième séance que je fais avec nos frères au Malawi. Tout est en anglais, mais ils m'attendent là-bas, donc on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Le frère Koulibaly, est-ce que je peux te demander de prier pour nous, demander la bénédiction du Seigneur sur ce que nous venons d'entendre aujourd'hui?
D'accord, je vais prier, mais je vous demande aussi de prier pour la sœur Christelle qui fait beaucoup de sacrifices pour la réussite de cette mission pour moi.
Ah.
Afin que Dieu puisse la bénir avec son épouse.
Ouais. Ouais.
Elle s'appelle Christelle.
Christelle.
Si elle peut prier aussi pour
elle est à côté, elle écoute.
Elle est à côté.
Bien. Merci bien, Christelle. Oui, Christelle, merci bien pour tout ce que tu fais. C'est vraiment une bénédiction pour nous de pouvoir avoir Koulibaly avec nous à travers ce moyen-là. Merci pour tout. C'est bien, c'est bien. Alors, le frère Koulibaly, tu veux nous diriger dans la prière?
Oui, tu veux. D'accord, je vais prier. Éternel tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, encore, Seigneur Dieu, tu nous plonges vraiment dans ta miséricorde, Seigneur Dieu, avec ces messages. Seigneur Dieu, aide-nous à ce que ces messages soient gravés dans notre cœur. Ce que, Seigneur Dieu, nous puissions aussi les dispenser pour d'autres. Seigneur Dieu, bénis notre formateur, bénis le frère Amédée, bénis le frère Aurélio, et bénis Christelle et toute son équipe, afin que vraiment la gloire soit donnée à toi. Bénis mon frère encore qui va continuer cette tâche, servir-le dans notre émission, afin que Dieu puisse te fructifier et le bénir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Amen.
Amen.